Bonjour, je m'appelle Frédéric Gagnon et je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM. Vous écoutez le balado de la chaire, le balado qui vous permet d'entendre nos conférences si vous les avez ratées. Le 30 octobre dernier, Sami Aoun, directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et professeur titulaire à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, a présenté la midi-conférence « Iran et Arabie saoudite, un jeu à somme nulle ». Il nous a dressé un portrait de la situation géopolitique au Moyen-Orient et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à toutes et à tous, vous allez bien?
Oui.
Oui, parfait, vous êtes là, je vous entends bien, super. Est-ce que vous m'entendez aussi?
Oui.
Donc, je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. N'est-ce pas, Louis?
Oui.
Oui, c'est un plaisir d'être là. Vous connaissez peut-être, sans doute, j'en suis certain, notre conférencier invité de ce midi. Il s'appelle Sami Aoun, il est professeur titulaire à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Et nous sommes chanceux, il est également directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de la chaire Raoul Dandurand, un observatoire dont la mission est de décrypter ce qui se passe dans cette région fascinante, complexe et qui est toujours dans l'actualité. On le voit encore récemment. Vous l'avez vu il y a quelques semaines, il y a eu des attaques contre des installations pétrolières en Arabie saoudite. D'ailleurs, le président Trump et son secrétaire d'État, M. Mike Pompeo, ont dit que toutes les cartes étaient sur la table à partir de maintenant, qu'il fallait découvrir qui était responsable de ces attaques contre l'Arabie saoudite et, au besoin, recourir à l'outil militaire pour peut-être mener une intervention digne de ce nom dans la région en question. Donc, on le voit, les tensions montent aussi entre les États-Unis et l'Iran depuis quelques semaines. John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale, va-t-en-guerre, faucon néoconservateur de Trump, a quitté la Maison-Blanche. Il était en faveur peut-être d'une intervention musclée contre l'Iran. Mais on le voit, ça brasse, entre guillemets, dans cette région depuis quelques semaines. Et lorsqu'il y a eu les attaques contre les installations pétrolières en Arabie saoudite, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Sami. Et j'ai dit, Sami, il faut que tu viennes nous expliquer ce qui se passe. On veut comprendre. C'est pas toujours simple, évidemment, de savoir qui est responsable de cette attaque. On a dit que c'était possiblement aussi des rebelles du Yémen, appuyés par l'Iran. Donc, M. Pompeo et M. Trump tentent de découvrir ce qui s'est passé. Mais on le voit, les tensions sont considérables dans la région. Sami parlera peut-être aussi d'autres pays de la région qui font l'objet de décisions importantes aussi de la part de l'administration Trump. Le retrait récent d'une partie des troupes de Syrie au nord-est de la Syrie, c'est une décision très impopulaire, notamment au sein du Parti républicain à Washington. Il y a eu récemment aussi assassinat de M. al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, et d'un porte-parole de l'État islamique aussi dans les heures qui ont suivi cette intervention-là. Donc, l'actualité déborde de sujets hyper fascinants, hyper intéressants. Et j'ai eu envie d'inviter Sami Aoun, mon ami de toujours et le directeur de l'OMA, à nous aider à comprendre ce qui se passe dans la région. Donc, sans plus tarder, je pense que je vais lui laisser la parole. Il pourra nous parler, Sami, pendant peut-être une trentaine de minutes, c'est comme tu veux. Et il y aura, à la suite de cet exposé, une période de questions et réponses. Donc, ce sera possible d'interagir avec Sami Aoun, que je remercie. Merci beaucoup, Sami, d'être là. J'ai presque envie qu'on t'applaudisse tout de suite, parce que je sais que tu as un horaire chargé, mais merci de prendre le temps de venir nous expliquer ce qui se passe dans cette région et notamment de ces deux pays.
Donc, merci,
un
monsieur.
Jeu à somme nulle, point d'interrogation. Voilà. Voici le titre de la conférence.
Merci, monsieur le titulaire. Et Frédéric Gagnon est un grand prof, hautement articulé, dont je suis fier. Fier de notre amitié et même notre complicité, même intellectuelle. Très ravi d'être parmi vous. Frédéric a voulu que ce soit un entretien, non pas une conférence magistrale. Alors, je ferai un peu plus de la spontanéité. Et je vois que dans la salle, il y a des gens qui sont aussi experts dans la matière et d'autres qui sont certainement initiés et bien connaisseurs. Alors, par après, dans la période de questions, on va diviser ça kiff-kiff entre moi et vous. Et soyez à l'aise, je suis j'ai pas l'épiderme très sensible. Alors, vous soyez à l'aise avec vos questions, vos interrogations, qu'elles soient les plus succinctes possibles et les plus ciblées possibles. Ça me fait un grand plaisir et on peut faire le tour de toute la salle à ce moment. Certainement, le sujet est assez complexe et j'ai choisi un jeu à somme nulle pour dire simplement, peut-être avec une autre manière, que ça peut être plus désastreux que bénéfique pour les parties qui sont engagées dans la chose. Avant, si vous le permettez, je veux mettre la table tranquillement et je crois que c'est mieux de proposer ce que vous avez reçu comme invitation, que vraiment je suis bien ravi de vous avoir, et comme ça on peut la suivre tranquillement d'une façon assez spontanée. Après, on peut peaufiner quelques points. Tout d'abord, vraiment, il y a eu plusieurs événements. Professeur Gagnon a choisi l'attaque contre l'Aramco qui a fait perdre au marché pétrolier dans un seul coup à peu près 5% de la fluidité et du flux du pétrole et des hydrocarbures dans la région. Ça, c'est vraiment un événement assez important, mais qui cache d'ailleurs quand même beaucoup d'autres événements qui sont plus grands et plus qui encadrent cet événement. Alors, je veux essayer de vous dire tout d'abord quel portrait peut-on dresser du Moyen-Orient en 2019. J'ai regretté toute ma vie de ne pas être un guide touristique pour vous montrer la beauté et la splendeur de la région et son histoire. Mais parce que je suis un oiseau de mauvaise augure, et on va parler de géopolitique et de politique, généralement le ton est plus pessimiste et le ton plus réaliste et qui pourrait virer vers un certain pessimiste. Alors je m'excuse des originaires de la région que ça apparaît pareil. Alors quel portrait peut-on dresser du Moyen-Orient en 2019? Voilà, c'est une région volcanique, sismique, qui fait exploser plusieurs guerres, plusieurs tensions et plusieurs conflits, qu'ils soient sectaires, qu'ils soient des guerres conventionnelles et qu'ils soient des guerres de procuration. Le type de guerre qui apparaît maintenant dans le Moyen-Orient, qui est le plus dominant, ce que j'appelle la guerre de procuration, c'est-à-dire le proxy war. Le proxy war a deux grands acteurs dans la région, au moins au niveau du Moyen-Orient, c'est l'Iran et l'Arabie Saoudite. Deux titans qui n'arrivent pas à se confronter directement ou qui ne veulent pas se confronter directement, ils choisissent d'autres points dans la région pour mener une guerre indirecte, si on pourrait dire pareil. Dans la frappe de l'Aramco, ça a été assez particulier parce que même si l'accusation a été tournée vers les Houthis dans les premières heures, même si ce mouvement yéménite zaïdite, qui est une petite faction après tout, qui représente 5% des 30% des chiites zaïdites, qui sont la troisième école de l'islam chiite, si vous voulez, alors même si ça a été réclamé, on a par après compris que ça vient direct du territoire soit iranien, soit un autre territoire, mais directement, au moins on est sûr, par les armes iraniennes. Alors, l'attaque contre Aramco, c'était une possibilité, si jamais les Saoudiens ont répliqué ou l'administration américaine a répliqué, ce serait à ce moment, la guerre de procuration va devenir une guerre frontale et directe. Mais pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Nous sommes toujours dans des guerres de procuration. Ça, c'est un premier point à bien retenir, si vous permettez, pour comprendre ou pour bâtir une grille de lecture de la région. Deuxième point qu'il faut aussi saisir pour comprendre pourquoi il y a tellement de soulèvements et de révolutions ou de turbulences dans la région. Qu'il soit au Liban, qu'il soit au Yémen, qu'il soit en Libye, qu'il soit ailleurs. Premier élément de comprendre aussi le Moyen-Orient, c'est, je veux le dire directement, ce qu'on appelle en bon lexique arabe « à la fitna ». La fitna, c'est-à-dire la guerre de discorde entre les grandes composantes, les grandes branches de l'islam, les grandes écoles, donc la grande majorité sunnite, qui est dans la région arabe une majorité démographique imposante, arabo-sunnite, avec plusieurs écoles là-dedans, Et vous avez la composante chiite qui est minoritaire, mais qui est représentée surtout par la puissance iranienne. C'est le seul État dans le monde qui se déclare au niveau constitutionnel comme une république musulmane duodécimène, c'est-à-dire chiite. Et c'est le seul pouvoir dans la région qui est dominé directement par ce qu'on appelle le clergé dans notre lexique occidental ou une classe cléricale. Et en ce sens, l'Iran se pose comme porte-étendard d'une mission musulmane en général, mais particulièrement chiite duodécimène. Et parce que c'est une grande puissance, et je reviendrai sur ce point, les opposants ou les contrepoids aussi vont être comme représentatifs d'un certain islamisme. Le cas de l'Arabie saoudite est assez aussi impressionnant sur ce point. C'est un pays qui a une alliance que nous appelons dans le Moyen-Âge chrétien entre l'autel et le sabre. Alors, à peu près pareil, c'est-à-dire qu'il y a un establishment religieux, clérical, mais qui est en alliance avec l'épée, avec une force tribale qu'on appelle les Saouds, qu'on appelle l'alliance peut-être, disons, tribalo-clanique saoudienne. Alors, pratiquement, vous avez deux régimes qui se confrontent, soit dans une quête de porter l'étendard de l'islam, soit pour une quête d'être les plus représentatifs de l'islam, ou le vrai islam, si vous voulez, pour les arabophones, Sahih al-Din. Alors, en ce sens, vous avez cette quête de leadership pour parler au nom de la galaxie islamique entre ces deux puissances. Alors, si on a saisi ce point, on peut aller sur un troisième élément important. Le Moyen-Orient est un espace de passage. Quand il y a trop de puissance en Europe, alors il y a un débordement sur la région, ce que vous appelez colonialisme, impérialisme ou d'autres. Et cet élément est très important pour comprendre. Tout l'espace moyen-oriental est depuis 200 ans, au moins deux siècles et poussière, il n'y a aucun événement majeur dans cette région sans une incursion étrangère, particulièrement soit européenne, soit américaine, soit russe, et quelque chose qui est un peu discret, et chinoise ou autre. Alors, sur ce point, le Moyen-Orient apparaît soit comme un terrain de jeu pour des guerres et des rivalités externes, et il apparaît encore, et c'est mon quatrième élément, comme une puissance ou un terrain ou un lieu où on peut exploiter ses ressources, et particulièrement les ressources hydrauliques. Si dans ce Moyen-Orient, simplement on avait des produits de carottes et de melons d'eau, personne ne viendrait les prendre. Alors, dans cette région, c'est les ressources pétrolières. Alors, vous avez à peu près ici les trois quarts des ressources pétrolières et hydrocarbures qui huilent, si on peut se permettre cette expression, la machine industrielle et de productive, soit en Occident, soit dans les deux puissances qui aujourd'hui, comme je disais, un peu discrètes, mais qui sont très importantes dans la région, la Chine et l'Inde particulièrement. Parce que c'est vrai que ce Moyen-Orient avec ses hydrocarbures n'est plus vital, entre guillemets, pour l'Occident et l'Europe de l'Ouest et surtout l'Amérique du Nord, parce que la valeur stratégique de ce Moyen-Orient n'est pas importante. Ça, c'est un sujet de discussion avec le titulaire par après. Alors, n'est plus importante pour la stratégie américaine. La valeur stratégique du Moyen-Orient, la valeur du pétrole du Moyen-Orient n'est plus importante pour cette région. D'où le retrait, d'où le repli américain, parce que pour la simple raison, je veux un peu vite les chiffres, c'est à arrondir si vous le permettez. Il y a quelques vingtaines d'années, le pétrole du Moyen-Orient en général représentait pour les Américains, pour les États-Uniens, pour être sûr, qu'on se comprend, autour de 20 à 22 %. Aujourd'hui, même dans les chiffres les plus optimistes, tout ce qui est, on appelle hydrocarbures, ne représente pas pour l'économie américaine plus que 4 %. Alors, vous comprenez que ce n'est plus une grande valeur. Et en ce sens, en plus d'autres éléments, on arriverait par après, sur un certain, peut-être, manque d'intérêt, non pas simplement stratégique, mais de jouer le rôle du gendarme dans cette région, que M. Trump dit parfois d'une façon incohérente et imprécise, mais qui est déjà dans l'héritage de M. Obama, que ce Moyen-Orient est lourd, il est insoluble, incompréhensible, c'est mieux de pivoter vers l'Asie. Et c'est une expression d'ailleurs de M. Obama, non pas de M. Trump, je ne sais pas s'il l'a dit, mais pratiquement, cette tendance de repli est toujours présente. Alors, en bref, comment le portrait qu'on peut donner du Moyen-Orient au niveau stratégique, c'est une région qui est en perte de valeur. Ça, c'est important de le dire. Il reste, par contre, que dans cette région, il y a des intérêts qui continuent. Alors, quel rôle joue l'Iran et l'Arabie saoudite dans cette région mouvementée? Commençons par ce que j'avais dit, la quête ou la course pour le leadership. Essayons de comprendre un peu plus. Dans le cas iranien, ce qui est le plus important dans le cas iranien, depuis la révolution de 1979, c'est assurer la survie de la révolution. Et c'est un point essentiel pour eux, parce que dès les premiers mois de la révolution, les Iraniens, qui sont au pouvoir, non pas nécessairement les opposants, ont eu une prise de conscience que leur révolution khomeiniste, chiite, islamiste, est sous forte pression pour l'étouffer. Alors, on a déclenché la guerre avec l'Irak, Saddam Hussein dans le temps. Alors, ils ont eu ce pressentiment qu'ils vont être presque, je dirais, encerclés. Cet encerclement continue jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le remarquez dans le titre, j'ai utilisé la pression maximale. La pression maximale par l'administration Trump, c'est d'imposer sur l'Iran des sanctions jusqu'à soit l'encercler en premier lieu, soit pour l'étouffer en deuxième lieu et pour le rendre un État capable, et voilà le point, d'être un État qui pense à la raison d'État et non pas un État qui pense à l'exportation de sa révolution islamiste. C'est le point fondamental. Donc, Américains et Saoudiens alliés très solides avec les Américains, malgré quelques troubles, vont essayer avec l'Iran de le rendre un État plus à l'intérieur de lui-même, qu'il rentre en lui-même et qu'il n'exporte pas sa révolution. Alors, il y a deux niveaux de l'exportation de la révolution khomeiniste. Le premier est direct, pour ne pas aller dans beaucoup de théories, c'est l'empowerment des communautés chiites dans la région. C'est-à-dire que l'Iran khomeiniste a exprimé idéologiquement et dans les plans d'action sa volonté, ses plans, ses ambitions, que les communautés chiites qui sont dans la région et qui ne sont pas au pouvoir, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'un support et il faut les renforcer, ce qu'on appelle en bon anglais le « empowerment ». Dans cet empowerment, l'État iranien, qui a une ambition impériale, persane, c'est connu d'ailleurs, va chercher, cibler où les chiites ont besoin d'aide et qui peuvent ou pourraient être un relais pour la puissance impériale iranienne, islamiste certainement. Alors, ils vont chercher. Au Koweït, il y a 30% des chiites dans le Koweït, alors il faut les renforcer de la sorte qu'ils aient quand même accès à la prise de décision, participer au pouvoir décisionnel dans le pays. Bahreïn, c'est 60% à peu près des chiites, on va les appuyer pour perturber un royaume ou un État qui est particulièrement sunnite. Même scénario pour l'Arabie saoudite, il y a 10 à 12% des chiites parias, éliminés ou marginalisés, on va leur lancer les moyens de leur renforcement et on le fait. Dans le cas du Yémen, on l'a fait encore. On a revigoré l'alliance entre les Haïdites comme communauté et surtout les Houssis. Et on va renforcer les Haïdites apparentés au chiisme pour clore les discussions sur ce point. Alors pratiquement, on va les renforcer pour qu'aucun changement se fait au Yémen sans l'approbation des chiites ou des alliés des Iraniens chiites. Alors voilà le point de ce que j'appelle l'empowerment. Pour ceux qui connaissent bien le Liban et s'intéressent au Liban surtout les derniers jours, alors la communauté chiite libanaise qui représente autour de 35% de la population libanaise, aussi les Iraniens par une bonne intelligence stratégique ont créé ou ont aidé à créer le Hezbollah, qui est un bras armé très robuste face à Israël et qui va donner une fierté aux Iraniens qu'ils sont en train d'aider un groupuscule au début qui pourrait se mesurer contre Israël et même l'humilier dans la guerre de 2006. Et les Iraniens vont être de un sur la Méditerranée, de deux sur les frontières avec Israël et se créer un crédit comme ils sont des combattants contre le sionisme ou l'Israël, ou parfois on dit les Juifs en tout cas. Alors voilà un premier élément de renforcement. Dans le cas libanais, c'est peut-être plus clair pour vous. La communauté chiite aujourd'hui est une communauté hautement renforcée. Eux qui étaient les chiites, les parias ou les marginalisés du pays, sont devenus au centre de la décision stratégique. Aucune décision libanaise par l'État libanais qui pourrait se faire à leur détriment, à titre d'exemple. Alors, deuxième élément aussi pour saisir la stratégie iranienne, que je crois aussi intéressante, alors les Iraniens vont renforcer encore dans les guerres qui sont éclatées, surtout ce qu'on appelle sous la bannière le printemps arabe. Alors, les Iraniens vont avoir première attitude que ce printemps arabe est un complot américain, un complot sioniste. Et après, ils changent de lexique et ils disent que le printemps arabe est plutôt un empowerment encore ou un renforcement de l'islamisme radical ou de l'islamisme sunnite. Alors, ils se font des alliances avec soit les frères musulmans dans des cas, soit avec d'autres groupes islamistes comme à Hamas, par exemple, à Gaza, plutôt le djihad, plus que le Hamas en tout cas, ou ils le font avec d'autres mouvements. Et le point qui va devenir un point de charnière, c'est la guerre en Syrie, où on va commencer par une rébellion contre le président Assad, qui est de confession alaouite. Alors, et j'arriverai sur le point stratégique. Alors, on va commencer par une rébellion. Et à ce moment, les Iraniens qui ont appuyé d'autres mouvements de printemps arabe contre Kadhafi, contre Ben Ali au Yémen, alors ils se sont coincés. Alors, pourquoi? Parce que cette fois-ci, ils vont changer de discours. Ils vont appuyer le président Assad, non pas simplement par affinité alaouite et chiite, non pas simplement pour ça, parce qu'ils ont compris que le corridor qui va les aider à sortir de leur encerclement devrait passer par Téhéran, Bagdad et Damas pour arriver à la Méditerranée. Alors, ce qu'on appelle dans le lexique anti-iranien, on l'appelle le croissant chiite, qui est un croissant qui passe justement par la Syrie. Et ils ont, peut-être à tort ou à raison, ça, l'histoire va nous le montrer, que le président Assad et son régime va être une garantie pour leur expansion à l'extérieur de leurs frontières et surtout dans ce qu'on appelle le Levant ou le Mashrek ou le bassin de croissant fertile entre l'Irak, surtout la Syrie, le Liban. Et ils avaient déjà une bonne emprise sur Gaza en Palestine. Alors, en ce sens, les Iraniens trouvent un moyen de contourner les tentatives d'étranglement. Et nous sommes à ce point-ci. Ce que vous voyez aujourd'hui et dans la semaine dernière, soit au Liban et surtout en Irak, on voit une certaine rébellion dans certains milieux chiites, souvent considérés comme pro-iraniens, et qui ont profité de la chute du régime Saddam Hussein, et au Liban qui ont profité de leur renforcement, on voit une certaine rébellion contre le pouvoir iranien chiite. Mais ça, je peux le traiter par après, si vous le permettez. Mais peut-être des symptômes de rébellion chiite contre l'emprise iranienne sur les chiites en premier, sur l'Irak en général. Je viens pour l'Arabie saoudite maintenant, pour saisir un peu l'autre rôle dans la région. L'Arabie saoudite est un grand titan. C'est une des plus grandes puissances dans la galaxie musulmane. Ce qui est peut-être méritoire d'intérêt et de compréhension, les deux grandes puissances dans le monde musulman sont gouvernées par des régimes plutôt rigoristes, plutôt islamistes et plutôt soucieuses d'exportation de leur modèle de vie. Et les deux ont à peu près, je dirais, la même impasse, que leurs modèles de vie ne sont pas universalisables à l'intérieur de la galaxie musulmane. Les deux ont la même difficulté, le même handicap, si vous permettez. Mais pour l'Arabie saoudite, voilà. C'est, à la différence de l'Iran, vous avez un régime plutôt tribalo-clanique, un État qui n'a pas des assises d'État au centre État moderne, au sens État impérial, et en ce sens, il y a une grande différence entre les deux. Mais les Saoudiens, quand même, ont un régime qui est un pourvoyeur d'argent pour plusieurs mouvements islamistes, et parfois ils peuvent se connecter avec des mouvements islamo-libéraux comme Al-Mustaqbal, le futur au Liban, ou d'autres. Mais aussi, les Saoudiens sont très soucieux d'avoir un arc d'alliance très vaste. Pourquoi? Parce que les Saoudiens, à la différence des Iraniens, n'ont pas une profondeur stratégique et n'ont pas une profondeur même démographique. Alors, les régimes du Golfe arabe, généralement peu de densité démographique, et surtout, elles n'ont pas une grande profondeur stratégique. C'est pourquoi ils cherchent des alliances. Ils cherchent des alliances avec le Pakistan, qui est aussi une puissance musulmane assez importante, même si elle est précaire ou affaiblie ou pauvre, ou ça on peut discuter par après. Ou ils cherchent une profondeur stratégique avec, à titre d'exemple, l'Égypte. Mais pratiquement les Saoudiens n'ont pas cette grande profondeur stratégique comme l'Iran, qui est limitrophe avec l'Asie et l'Orient, l'Extrême-Orient en général. Alors, qu'est-ce que les Saoudiens, pour colmater leur précarité stratégique et leur angoisse de survie comme État, et qui n'a pas une grande légitimité, comme je disais avant, au niveau soit démographique ou d'autres, ils vont la chercher avec l'allié américain. Depuis 1945, par leur lecture des changements géopolitiques, on voit que les Saoudiens étaient les premiers à saisir qu'il y a une descente, un déclin des puissances européennes. L'Europe est meurtrie par la Deuxième Guerre mondiale et ils ont commencé à voir la montée des Américains comme une puissance économique, donc qui a intérêt dans leurs ressources, leur pétrole et autres, et qui a intérêt d'être héritière de la puissance, surtout britannique. Alors, les Saoudiens ont scellé en 1945 leur alliance assez solide avec les Américains, qui dure malgré les perturbations. Alors, premier point de cette alliance pour faire face toujours à l'Iran ou à d'autres. Premier point, les Américains imposent un parapluie de sécurité sur l'Arabie saoudite et la région du Golfe. Ils seront les plus bénéficiaires des ressources pétrolières, ce qu'on appelle les sept grandes compagnies bien connues. Alors, ça, c'est un élément. Alors, et encore, ils se chargent de la sécurité, mais ils laissent aux Saoudiens eux-mêmes gérer leur situation interne. Les Américains n'interviennent pas dans les us et les coutumes saoudiens. Si vous voulez la mixité homme-femme, faites-le. Si vous ne voulez pas, on peut survivre sans ça. Si vous voulez imposer un régime islamiste, faites-le. Si vous voulez que le wahhabisme soit la seule idéologie, ce n'est pas une doctrine musulmane, c'est une idéologie qui est le soubassement de votre légitimité, tant mieux. Ça, c'est un. Alors, les affaires internes saoudiennes, il n'y a pas d'interférence ou intervention directe par les Américains. Simplement, le parapluie sécuritaire. Deuxième élément qui va changer un peu cette donne, c'est la guerre froide. Quand on s'engage dans la guerre froide, alors les Américains vont chercher une bonne aide des Saoudiens. Parce que dans la guerre froide, vous le savez mieux que moi, l'ennemi, le grand Satan, c'était le communisme, l'Union soviétique. Alors, les Américains vont chercher une source idéologique de leur combat contre l'Union soviétique, surtout dans les pays musulmans. Parce que la stratégie américaine voulait encercler l'Union soviétique, le double endiguement bien connu, ou l'endiguement seul, et ils vont étouffer l'Union soviétique. Et tous les pays entourant l'Union soviétique étaient, par hasard, des puissances musulmanes. Alors, les Saoudiens vont aider les Américains par leur idéologie wahhabite pour contrer le communisme et la montée du progressisme ou du socialisme dans le monde arabe. Ils vont croiser le fer avec Nasser, le grand héros du tiers-monde à ce moment, durant la conférence de Mandoug en 1957. Ils vont aussi le déranger, ils vont aller chercher faire des coups d'État au Pakistan avec l'aide des Américains pour renforcer les ailes ou militaires ou des cliques militaires pour prendre le pouvoir. Ils vont essayer ici et là que le wahhabisme se devienne la source qui alimente ce qu'on appelle aujourd'hui le djihadisme islamique. Et les Saoudiens, service rendu aux Américains, vous nous donnez votre parapluie sécuritaire, on vous donne de quoi satisfaire votre mobilisation contre l'Union soviétique ou le communisme en général. Ça, c'est, si vous voulez, le panorama qui va nous guider à lire un peu aujourd'hui qu'est-ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, pour terminer un peu mon intervention? Ce qui arrive aujourd'hui, pour du côté saoudien, puisque je suis là, il y a un bris de confiance entre les États-Unis et les Saoudiens. Cela a commencé avec M. Obama et l'interprétation saoudienne est telle. Vous avez signé une entente nucléaire avec l'Iran en laissant les Iraniens se déployer dans la région. Vous avez fermé les yeux, M. Obama, que les Américains, que les Iraniens, pardon, vont aller en déploiement dans la région, déstabiliser la région, prendre racine dans la région, simplement pour leur faire signer l'entente nucléaire. Alors, vous avez soit balancé, soit ignoré les intérêts de vos alliés. Et nous, les Saoudiens, nous sommes votre allié historique dans la région. Vous nous avez ignorés. Ça, c'est le point de grief entre Saoudiens et M. Obama. Quand M. Trump est arrivé au pouvoir, d'ailleurs, je dis ça aussi sous l'autorité de Frédéric Gagnon, alors les Émirats arabes unis et les Saoudiens ont appuyé beaucoup la candidature de M. Trump. Ils ne voulaient pas de Hillary Clinton et ils ont aidé beaucoup, ils attendaient que M. Trump revigore cette alliance avec eux, eux comme alliés traditionnels. Et une fois au pouvoir, M. Trump est apparu comme plutôt quelqu'un aussi qui ne s'intéresse pas aux valeurs saoudiennes. Preuve en est, il a tourné vite la page de Jamal Khashoggi et son meurtre odieux. Alors vite. Et quand il vend quelque chose aux Saoudiens et on lui demande pourquoi vous les vendez, il dit « il paye ». Et il s'est retiré des régions kurdes, mais le lendemain, en 24 heures, il a redéployé 3000 soldats américains en Arabie saoudite. Et quand on lui demande pourquoi, non, il paye. Alors, cette idée chez M. Trump et son administration que les Saoudiens payent. Et en ce sens, ils maintiennent cette alliance. Et parce que l'administration américaine ne veut pas l'effondrement de ce régime saoudien, pour sûr, et ils sont en train d'accompagner les transformations, si vous voulez, les réformes que MBS, Mohammed bin Salman, est en train de les faire. Mais quand il y a eu, comme l'affaire Khashoggi, ils peuvent fermer les yeux sans intervenir. D'ailleurs, aujourd'hui, comme vous le savez, Davos du désert, l'année dernière, a été boycotté par beaucoup de grands investisseurs, des grandes compagnies. Aujourd'hui, ils sont 300. Ils sont 300 qui donnent des discours dans le Davos du désert, du premier ministre indien au grand ticon des investisseurs étrangers. Alors, c'est comme si la page a été tournée. Pourquoi? Parce que l'Arabie saoudite reste importante. Et en ce sens, ce qui se fait que les Saoudiens veulent que M. Trump, ou ils ont souhaité, qu'il peut-être déchire l'entente avec les Iraniens. Les Iraniens avaient un point fort. Il n'y a aucun rapport qui a dit qu'ils ont mal appliqué au niveau technique l'entente sur le nucléaire. Ce qui était l'argument le plus fort, et chez l'administration Trump, que les Iraniens n'ont pas respecté l'esprit qui est celui de leur expansion dans la région et menacé leurs alliés, particulièrement l'Arabie saoudite, les Émirats arabes et même aussi l'Égypte du président Sisi. Alors voilà, du côté iranien, comme aujourd'hui vous êtes aussi servi par les nouvelles, M. Mnuchin a déclaré qu'il va peut-être majorer les sanctions contre l'Iran. Donc la politique américaine de pression massive et maximale continue. Deuxième élément qui est important pour comprendre le désir iranien dans la région, pour la première fois, M. Khamenei lui-même dit que les troubles en Irak, les troubles au Liban devraient être terminés parce que ce sont dus à un complot américain contre nous. Alors, pratiquement, on revient à la charge de la politique de dissuasion ou de la politique d'intimidation contre ces rebelles qui se font dans la région. Quel serait l'avenir? Alors, pour terminer sur ce point encore, l'avenir, ce n'est pas dans le scénario que je privilégie, il se peut que je me trompe, une guerre frontale entre Iran et l'Arabie saoudite. Les deux sont de même calibre idéologico-religieux, alors ils vont préférer toujours une guerre de procuration. Les Saoudiens vont toujours appeler à un renfort extérieur, qu'ils soient les Américains. Si les Américains ne répondent pas à l'heure sur ce point, ils vont appeler la médiation pakistanaise, sinon la médiation française, sinon la médiation suisse, et ainsi. Et pour les Iraniens, malgré que ça fait mal, ils souffrent beaucoup, mais leur résilience est presque intéressante à remarquer. C'est un régime, oui, il souffre, mais il a une capacité de résilience qui est due soit à un renfort qui vient de la Chine, et je termine sur ce point, parce qu'après tout, la guerre entre M. Trump et l'Iran, c'est une guerre plutôt sur l'expansion de la Chine encore dans la région. C'est pourquoi les Chinois essayent d'aider les Iraniens à résister contre l'administration américaine. Alors, est-ce que la région va vers la paix? Non, pas nécessairement. Elle est toujours tumultueuse, elle est toujours mouvementée, mais pratiquement les deux titans que je viens de mentionner, l'Iran et l'Arabie saoudite, n'ont pas dit leur dernier mot sur leur guerre et leur confrontation. Moi, j'ai terminé. Merci, ça c'est. Merci. Merci beaucoup.
Toujours impressionné de voir à quel point Samy connaît la région. On lui a demandé de parler de la relation entre l'Iran et l'Arabie saoudite et finalement, on avait l'impression de jouer une partie de risque. Donc, c'est la géopolitique de toute la région qu'on a touchée. Mais on n'a pas le choix. Samy, tu l'as bien dit, les deux titans, comme tu les as décrits, se livrent une guerre par procuration. Tu l'as bien dit, c'est une des idées que je retiens de ta présentation. Guerre par procuration qui a un effet de toute façon sur tous les pays de la région, qu'on pense à la Syrie, qu'on pense au Yémen. Donc, j'ai trouvé cette idée intéressante parce qu'on a affaire à ces deux titans qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas vraiment s'affronter non plus, parce que tu l'as bien dit en conclusion, une guerre ouverte, un conflit direct entre les deux titans obligerait les puissances internationales à se positionner, à participer peut-être à ce conflit-là. Et j'ai nommé les États-Unis, la Russie, la Chine. Donc, cet enchevêtrement d'intérêts de toutes sortes, tu l'as décrit à merveille, je trouve, avec toute ta passion habituelle, la clarté aussi du propos. Je salue ta capacité à communiquer ça de façon claire, parce que bon, c'est pas simple du tout. Ce que je retiens aussi de ta présentation, j'ai trouvé ça intéressant. Au fond, l'Arabie saoudite et l'Iran sont ennemis, mais ont au moins un point commun, c'est-à-dire qu'on a affaire à deux pays qui veulent exporter leur modèle de société, leurs valeurs, mais des modèles de société, tu l'as bien dit aussi, difficilement universalisables. Et j'ai trouvé ça intéressant et je trouve qu'au fond, la question que tu nous posais, jeu à somme nulle, je retrouve un peu cette idée dans ce que tu nous as dit, jeu à somme nulle au fond, parce que les deux puissances veulent gagner en importance dans la région, cherchent à exporter leur modèle, mais finalement, ils arrivent difficilement pour les raisons que tu as évoquées. Et ce que je retiens aussi, c'est peut-être une dernière idée très intéressante et importante de ta présentation, cette idée que le Moyen-Orient est une région en perte de valeur pour les grandes puissances internationales. Je pense que c'est assez clair du côté américain et j'ai aimé que tu rappelles quand même que Trump n'invente rien en disant que le Moyen-Orient n'est peut-être pas une région aussi importante qu'avant. Il y a une continuité là entre ce que Barack Obama proposait de faire et ce que Trump propose de faire. Évidemment, Trump ne présente pas la chose de la même manière. Il n'utilise pas les mêmes mots pour décrire sa politique étrangère que ce que faisait, Barack Obama. Mais ce pivot vers l'Asie, c'est cette volonté de se retirer peut-être de la région aussi parce qu'on y a mené des guerres en Afghanistan, en Irak. Il y a les conflits en Syrie qui sont interminables du point de vue de bien des Américains. Donc ça incite M. Trump, mais M. Obama avant lui à dire bien, on devrait peut-être réduire notre empreinte dans cette région-là. Sachant aussi, et ça, bien, les présidents américains ont fait l'objet de plusieurs critiques sur ce plan, mais sachant que la politique énergétique américaine depuis bien des présidences, elle consiste à essayer de se libérer aussi de la dépendance américaine au pétrole du Moyen-Orient. Et les statistiques que tu nous as données à ce propos étaient fort intéressantes. Les États-Unis produisent énormément de pétrole aujourd'hui c'est grâce notamment à des politiques énergétiques de Barack Obama, mais Trump propose un peu la même chose, des politiques énergétiques qui misent sur la production locale, la production nationale américaine de gaz, d'hydrocarbures, en fait, de combustibles fossiles et de pétrole. Donc, merci beaucoup, Samy. Je vous remercie en passant d'être là. Vous êtes nombreux, nombreuses. C'est super de voir qu'il y a autant de gens aujourd'hui à cette présentation. Donc, je vais vous donner l'occasion, évidemment, de poser vos questions pendant que vous y réfléchissez. Donc, sachez que ça s'en vient. Je vais peut-être poser une question à Samy. Sur la région en perte de valeur, on le voit, c'est assez clair pour les États-Unis, c'est assez clair pour les dirigeants américains. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une région en perte de valeur pour les Russes, par exemple, et en perte de valeur pour la Chine? Et là, je sais que tu n'es pas nécessairement spécialiste de la politique étrangère russe et chinoise, mais selon ta compréhension de la chose, est-ce qu'on peut autant dire que c'est une région en perte de valeur pour les Chinois et pour les Russes, ou est-ce que c'est simplement une région qui est davantage en perte de valeur pour les Américains? Donc, est-ce qu'il y a un pivot chinois et russe vers le Moyen-Orient, tandis qu'il y a un pivot peut-être américain vers l'Asie pour d'autres raisons?
Merci. Très bien. Pour un premier point sur les États-Unis et le pétrole, la puissance américaine est devenue la première puissance mondiale dans la production et l'exportation de l'essence, du benzine, du gasoline. Alors, ça est aussi important à le saisir. Pour la Russie, il y a une parole attribuée à M. Poutine qui dit « Nous, les Russes, on a les mains faibles, mais on les utilise bien. » Vous, les Américains, vous avez les mains fortes, mais vous ne les utilisez pas. Alors, c'est en ce sens que M. Poutine, à mon sens, est plus tacticien que stratège. Il est en train de remplir un vide laissé par les Américains. Alors, à ce moment, peut-être la Russie revient à être la puissance bipolaire avec un peu de réticence de ma part, mais ils sont en train de remplir. Dernièrement, M. Poutine est allé en Arabie Saoudite leur dire que moi, je suis aussi votre allié. Il fallait simplement s'organiser sur le prix du pétrole. Comme vous le savez, la Russie, ses revenus sont autour de 27 % qui dépendent des ressources du pétrole. Alors, il avait intérêt avec les Saoudiens qui jouent le rôle de swing state. C'est-à-dire, c'est eux qui balancent les prix pratiquement. Alors, il avait intérêt à leur dire que moi, j'ai besoin d'un prix de pétrole qui ne descend pas moins que 65. Pour le faire, les Saoudiens pourraient se contenter de 82 dollars, je veux dire, pour le prix du baril, pour équilibrer leur budget. Les Iraniens, à l'occasion, 194 dollars américains pour équilibrer leur budget. En ce sens, les Saoudiens ont une avance. Revenons à M. Poutine. M. Poutine a joué le jeu en Syrie. Alors, en Syrie, il a compris que les Américains sont réticents et il a compris qu'il peut être dans une situation, ce n'est pas par arrogance que je dis, de sous-traitance. Qu'il veut accepter une sous-traitance américaine dans le jeu syrien. Et il l'a réussi. Mais comme vous le remarquez bien, il joue en Syrie selon des paramètres, je pense, je suggère, je soupçonne, qui sont en bonne entente avec les Américains. Mais vous avez raison, il est rentré en Égypte, il rentre dans la région du Golfe. Est-ce que la puissance russe est une puissance capable de se réimposer dans la région comme une puissance bipolaire, comme la guerre froide? J'ai des doutes. Je crois, toi tu connais ça mieux que moi, que l'establishment américain utilise M. Poutine et la Russie pour contrebalancer une possible influence chinoise. Et comme tu sais aussi, comme mieux que moi en tout cas, que dans l'establishment américain, il y a deux tendances qui se concurrencent. Alors, le point, c'est en ce sens que le fait que des gens disent la menace qui vient contre les États-Unis, en premier, elle est la Chine, d'autres qui disent non, c'est plutôt la Russie. Alors, ce sont deux écoles stratégiques aux États-Unis. Deuxièmement, pour la Chine, non, tout à fait le contraire. La Chine a toujours intérêt dans le Moyen-Orient, dans ce qu'on appelle la route de soie. La route de soie, Silk Road. Alors, il semble que les Chinois sont très déterminés à reprendre cette route historique et quand même à s'imposer dans la région. Et laissez-moi vous dire une petite remarque. Généralement, parce que dans la galaxie de l'islam, et particulièrement en Iran, et particulièrement en Arabie Saoudite, on ne s'intéresse plus à ce qu'on appelle la démocratie libérale, la modernité occidentale. Alors, il est plus aisé pour eux de traiter avec la puissance chinoise qui n'a pas des conditions de modernité et de démocratie dans la région. Alors, c'est pourquoi c'est plus facile pour eux de traiter avec une puissance qui ne va pas changer leur façon. Et preuve en est, il y a un des plus grands massacres dans la région, les Ouïghours, et on voit que le monde musulman est presque silencieux, muet, rien vu, rien remarqué. Voilà.
Merci, Samy. Tu fais bien de préciser, puis j'aurais dû le faire, qu'il y a évidemment un débat aux États-Unis sur ce qu'on doit faire au Moyen-Orient. Puis on l'a vu, Trump milite pour peut-être un retrait plus évident de la région que ce qu'on a vu avant, mais il a été très critiqué au sein du Parti républicain ces dernières semaines.
Une autre dichotomie pour aujourd'hui, quand on a dénoncé au Congrès que la Turquie est responsable du massacre et du génocide des Arméniens. Mm-hmm. Alors, c'était un message en faveur des Arméniens, je ne dis pas non, mais c'est plutôt critique à M. Trump qui se rapproche plutôt de la Turquie.
Vous avez aimé cette conférence de Samy Aoun et vous voulez en apprendre davantage sur ses recherches? Consultez le site web de la chaire Raoul Dandurand au www.dandurand.ucam.ca. Et pour rester à l'affût des activités de la chaire, pour participer à nos conférences en personne, bien suivez-nous! Vous pouvez le faire sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre hebdomadaire directement sur notre site Internet. Et j'aimerais souligner que ce balado a été réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. On se retrouve très bientôt pour un autre balado de la chaire.